Un journal à la radio, c'est du théâtre vocal. C'est toute une mise en scène vocale des informations. L'auditeur a l'impression que c'est la nature des informations qui impose telle ou telle mise en scène vocale. Mais c'est le plus souvent la mise en scène vocale qui va faire l'information et lui donner finalement son rôle médiatique dans le théâtre médiatique. L'opinion est une grosse marionnette molle, à tête creuse. Le théâtre est dans sa tête.
On en a marre, Daniel. On se met des livres dans l'éducation nationale, partout en France, et dans les DOM, dans le primaire comme dans le secondaire, pour lutter contre la décentralisation et la réforme des retraites. Ça dure depuis des semaines, et les médias ignorent, étouffent, censurent ce mouvement social. Marre. Nous voulons garantir à nos élèves et à tous les enfants de ce pays un avenir. On compte sur toi, Daniel, pour que tu en parles. Et on t'invite à venir dans nos belles bouclées. C'est l'avenir du service public, l'égalité des chances et les valeurs de l'école républicaine qui sont en danger. Il faut se bouger. Tu fais du bon boulot, Daniel. Et nous, le Mont-Valo d'Elbeuf, t'embrasse.
Salut Daniel, je m'appelle Franck, j'ai 23 ans, je suis enseignant. Demain, je suis en grève. Et aujourd'hui, je suis en colère parce que ce matin, j'entends aux infos sur Inter que l'éducation nationale est en grève. Pour les retraites et tout le reste. Mais tout le reste, c'est quoi? C'est le plus important. C'est la régionalisation. Parce que ça touche tout le monde, il faut réagir. C'est le démantèlement du service public, à commencer par la santé et l'éducation. Ça veut dire région riche, école riche, hôpital riche. Région pauvre, école pauvre, hôpital pauvre. Et fin de l'égalité des chances. Alors il est peut-être temps de réagir.
J'ai entendu ce matin Luc Ferry affirmer sur votre antenne qu'il était absolument, totalement, jusqu'au bout des ongles même, partisan de l'école laïque et républicaine. Alors je lui donnerai un seul petit conseil, qu'il arrête de s'immer les ongles, car il aurait pu ajouter à son affirmation « Mais je mets mes enfants dans l'enseignement libre ». Salut.
Voilà, dans la manif à Marseille, là, ce matin, il y a une grosse manif d'enseignants, collèges, lycées, enseignants primaires, tout le public est dans la rue. Un grand appel à une grève reconductible, une grève générale, appelée dans le service public. Une grande mobilisation, un grand inquiétude chez les enseignants, de l'avenir. La décentralisation avec un risque du personnel dans Marseille. Beaucoup de problèmes. On a fait un mur des livres que Ferry nous a envoyés devant les secteurs académiques. Beaucoup de symboles. Allez.
Alors on appelle ça des reportables, hein. C'est le reportage avec un portable, mais faites attention à bien parler dans le portable parce qu'on n'entend pas grand-chose. Essayez de mettre la main comme ça autour de votre portable, de façon à filtrer un peu l'ambiance, et vous pouvez très bien nous raconter ce qui se passe. Et il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans les manifs. D'enseignants, évidemment, vous êtes au courant, et on a beaucoup de messages sur le répondeur de la Bassi J'y suis sur ce sujet. Aujourd'hui, on continue le procès qu'on a commencé hier. Je vais vous en dire plus dans une seconde. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la Bassi J'y suis, 01 56 40 37 37.
Daniel, simplement pour faire passer un message, pour faire suite à tes émissions sur les grèves et manifestations, il y en a une le 13 mai qui est interprofessionnelle et intersyndicale. Donc tous le 13 mai à 10h30, rendez-vous Place de la République. C'est pour la défense de nos retraites, le droit au départ à 60 ans avec taux plein, 37 annuités et demie, que ce soit pour le privé comme le public, parce que je vois pas pourquoi on se mettrait tous à 40 annuités sous prétexte d'équité. Moi je dis que sous prétexte d'égalité, il faut se mettre tous à 37 annuités et demie, voilà. Et donc c'est dans le même cadre aussi que les grèves que font actuellement les instituts, etc. Voilà. Merci de faire passer le message, au revoir.
Bonjour, ceci est un message du Centre international de promotion des Bernadettes. En ce qui concerne la conseillère générale de Corrèze, elle se déplacera le 8 mai à Orléans où elle célèbre la libération de la ville. Mais attention, hein, pas la libération de 44 contre les nazis, non. La libération d'Orléans par Sainte-Jeanne d'Arc qui a foutu une raclée aux ancêtres de Tony Blair. Un joli défilé en perspective pour les bigots et pour les militaires. En ce qui concerne les gauchistes qui écoutent cette émission, ils pourront eux aussi voir une Bernadette, toujours le jeudi 8 mai, juste à côté, au contrefaite joannique de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Elle sera accompagnée par un certain David D pour une opération pièce jaune en faveur des manifs contre le G8 déviant. Un spectacle et un concert à ne pas rater, avec notamment le groupe Yabasta, dont le nom résume bien l'état d'esprit de ces contrefaites joanniques. Salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle à partir de 19h le 8 mai.
Bonjour. Autocensure sur France Inter. Ce matin, 7h moins le quart, ou à peu près, rubrique sportive du week-end, victoire en Coupe d'Europe des handballeurs de Montpellier, et un petit Bobino nous fait passer le capitaine de l'équipe qui nous dit « Ouais, on a gagné, parce qu'on en voulait, on a fait ça avec notre courage, nos tripes, j'en passais des meilleurs, et avec nos couilles ». Voilà, fin du message. 7h30, je monte dans ma voiture, petite rubrique sur les sports, tiens, on a remis une petite couche sur Montpellier, tiens, encore le capitaine qui a toujours gagné avec sa volonté, avec la hargne, avec le courage, mais il a perdu les couilles au passage. C'était Pascal à Périllac.
Lundi 5 mai, 17h46. Eh ben, ça y est, je suis réconcilié avec la base si j'y suis, là. Ah ben, ça, c'est balèze, hein. C'est PDJC. Ça commence, bon, bah là, c'est vraiment à mourir de rire. Bon. Ah non, non, là, il faut que je continue d'écouter, c'est trop rigolo. Bon, allez, bye bye.
Bonjour, Mounir, Vendée. Écoute, je viens d'écouter ton émission, le procès de Jacques Chirac. Bravo. Merci, merci, merci mille fois. Pour ton culot, pour voilà, merci, ça a fait un bien fou. C'est ouh, j'attends la deuxième partie de demain avec impatience, ça fait un bien fou.
PDJC, JET et GME.
Bonjour, je suis une auditrice tout à fait occasionnelle. Je suis tombée par hasard sur la fin de votre la basse justifiée d'aujourd'hui, le PDJC, absolument hilarant. Je voudrais bien que ce soit diffusé. Mais alors, il y a quand même une erreur. Jacques Chirac n'a pas dit, à propos de Margaret Thatcher, qu'est-ce qu'elle me veut, cette ménagère, mes couilles sur un plateau. C'est une erreur du bouquin Les gammes de Jacques Chirac. En réalité, il a dit, qu'est-ce qu'elle me veut, cette mégère. Mes couilles sur un plateau. Voilà. Donc c'est mégère, pas ménagère. Voilà. Je vous embrasse.
Ah, voilà un sujet de controverse. A-t-on dit mégère ou a-t-on dit ménagère? Dans l'émission d'hier, première partie du jugement du PDJC. Le PDJC, oui. PDJC. Première partie du PDJC. Eh bien, effectivement, l'expert psychiatre a évoqué cette phrase de notre président de notre République. Alors on va réécouter cet élément pour voir si oui ou non notre amie auditrice a bien entendu.
Chirac va essayer de combiner cette exploration d'un monde qu'il ne connaît pas tout en essayant en permanence finalement de s'y affronter. Donc il cherche à la fois la particule et l'argent que représente la famille Chaudron-Courcelles et simultanément il la provoque par une attitude extrêmement violente avec des mots qu'on a cités, mais on pourrait également citer celui prononcé à l'occasion de la rencontre avec Margaret Thatcher. Qu'est-ce qu'elle me veut, la ménagère, que je mette mes couilles sur un plateau? Voilà une expression qui ne départ pas dans la bouche de Jacques Chirac, car en effet, on voit bien que c'est par cela qu'il s'affirme, par le langage, par la violence. Et je crois que c'est un des éléments importants de sa personnalité.
Bravo la fine oreille de l'auditrice. Là-bas, si j'y suis, PDJC.
Flight number 2, arriving from
Newport. Vous entendez? Terrible, hein? Assourdissant. Ça s'appelle un bruit de casserole. Vous entendez les casseroles? Ah, c'est formidable. Hein? C'est vraiment, on les entend clairement. Vous entendez pas? Vous l'entendez pas? Ah, ça, c'est formidable aussi. Si je dis le mot Chirac, qu'est-ce que vous entendez? Vous êtes de ceux qui entendent un bruit épouvantable de casseroles, emplois fictifs, faux électeurs, vacances à l'île Maurice, château de Biti, HLM de la ville de Paris, c'est assourdissant. Ou bien vous faites partie de ceux qui n'entendent rien. De ceux-ci. Et dans ceux-ci, il y a deux catégories. Ceux qui n'ont jamais rien entendu et ceux qui n'entendent plus rien depuis un an. Plus de casseroles. Extraordinaire. Disparition des casseroles. Alors, le silence est très beau en radio. C'est très très beau. Ça fait partie de la radio. Mais ça peut pas durer longtemps. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons du côté de ceux qui font du bruit, même si ça ressemble un petit peu à un bruit de casserole. Hey! AFV, Anti-France vaincra. Voilà le nom de code de cette société secrète réunie dans une salle obscure, grotte, catacombe, on le sait, afin de faire le PDJC, le procès de Jacques Chirac. Sous les masques que portent ces hommes de justice, de sac et de corde, eh bien, hier, nous avons déjà reconnu un certain nombre d'intervenants. Nous avons pu identifier des gens comme un certain Mordilla, Gérard, cinéaste, un certain Lim, comédien, une certaine Huguette Dreykhaus, comédienne, écrivain et alsacienne, un certain Frédéric Pagès, un certain Hervé Liffrand, assesseur, mais en fait journaliste, une certaine Claire Doublié, un certain Christophe Claire qui se prétend de avocat, un certain Michel Udiani, puériculteur, soi-disant, mais surtout comédien, si nos renseignements généraux sont les bons, et nous en étions restés à un certain Hervé Letellier, journaliste et écrivain, qui se prétendait expert psychiatre. Il y avait également, parmi les personnes présentes dans ce tribunal, un certain Luz, un certain Cabu, un certain Charbe, Jules Kerleroux, Cardon, Wozniak. Vous avez reconnu des dessinateurs humoristiques et politiques fameux. Voilà ce qu'était le PDJC, le procès de Jacques Chirac. Alors, nous en étions restés, vous vous en souvenez, amis auditeurs, à la conclusion de l'expert psychiatrique Hervé Letellier.
Pour conclure, quant à savoir s'il est responsable pénalement, je pense qu'on peut répondre oui, l'homme est sain d'esprit, malgré des tendances à la schizophrénie et à la paranoïa, mais qui ne l'est pas. Sa vision de la vérité n'est pas très éloignée de certains confrères du barreau que je connais. Et donc finalement, je dirais que cet homme a de fortes chances de pouvoir se réhabiliter. La famille est aisée, peut lui payer un infirmier de manière permanente. Et je conclurai ainsi en disant que, sans doute, la possibilité non seulement de sa réhabilitation, mais de sa réinsertion sociale sont fortes. Et je demande à ce qu'il en soit tenu compte dans ce procès.
Merci beaucoup, docteur Letellier. Vous avez gagné la salle. Attendez, un instant, vous avez des questions? Alors, si vous voulez bien, oui. La parole est à la défense.
Je souhaiterais, compte tenu de votre expérience en matière psychiatrique, que vous répondiez à la question suivante. Monsieur Chirac, selon vous, a-t-il été élu avec 82% des voix de la nation française parce qu'il était enfant unique parmi 20, veuf de sa sœur, fétichiste de la sucette et du sanskrit, ou simplement parce qu'il mangeait de la confiture virtuelle?
Alors, la réponse est un peu entre les deux. Je dirais que ce qui a beaucoup compté dans l'élection de Jacques Chirac à 82%, c'est son caractère finalement un peu schizophrénique. Vous savez que lui et la schizophrénie, ça fait 3. On peut dire que 41% sont allés à sa partie clair, et les autres sont allés dans la partie sombre. Et pour ma part, je ne sais pas pour laquelle j'ai voté.
Mais en tout cas, vous êtes un homme et vous croyez en lui.
À une des parties de la question, je dirais oui.
Merci. Bien, après cette expertise du docteur Le Tellier, dont on nous dit qu'elle est d'une très très grande précision biographique et très bien documentée, ce qui va permettre d'éclairer la cour, puisque nous sommes réunis pour cela, je vous le rappelle, nous allons aborder l'affaire des voyages, et pour cela nous allons demander de venir à la barre le témoin Smaïl Nadir, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Smaïl Nadir, vous allez jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». ».«
Je le jure ».
Très bien. Vous êtes né le 27 mars 1980 à Créteil, dans le 9-4.
C'est ça.
Vous êtes professeur de fitness.
Le fitness, c'est une gymnastique rapide au mouvement enchaîné pour l'oxygénation et la respiration des tissus. Ces exercices permettent de fortifier le cœur, les poumons, et bien sûr, la sculpture du corps.
Très bien. Et c'est pour ces raisons que monsieur Jacques Chirac vous a engagé.
Tout à fait.
Et vous l'avez suivi, puisque c'est ça qui nous intéresse, dans ses voyages.
Tout à fait.
Très bien. Alors, venons-en aux faits. Entre 1977 et 1995, des voyages personnels de la famille Chirac à l'hôtel Royal Palm à l'île Maurice, à New York, au Sultanat d'Oman, au Japon, ont été financés en liquide avec des fonds de provenance douteuse. Entre décembre 92 et juillet 95, un rapport d'expertise judiciaire évalue à 3,1 millions l'argent des voyages privés payés en liquide par Jacques Chirac et ses proches. Une plainte a été déposée par les services fiscaux pour détournement de fonds publics. Alors, monsieur Smaïl Nadir, vous avez suivi le président Chirac et sa famille partout. Par exemple, au Sultanat d'Oman, entre le 26 décembre 92 et le 4 janvier de l'année suivante, le couple Chirac a pris des vacances, au total une note de 612 000 francs, alors que les revenus du maire de Paris s'élevaient à l'époque à la modique somme de 63 378 francs. Est-ce que vous étiez au courant de ces dépenses?
Non, moi je suis juste là pour les pompes et les abdos. Hein. Maintenant, savoir comment je me déplace, c'est pas mon problème.
Très bien. Alors, le président Chirac a effectué une quarantaine de voyages au Japon lorsqu'il était maire. Vous l'avez suivi dans ces...
Tout à fait. Pendant les 40 voyages, j'étais là.
La plupart de ces voyages ont été commandés et payés à l'agence Gondard Voyage pour 2,7 millions de francs en liquide, avec des noms de code pour le couple, leurs filles et leurs amis. 100% occultés. Été 2000, 3 semaines dans une suite du Royal Palm de l'île Maurice. Une suite à 21 972 francs la nuit, les vacances à 460 000 francs, sans compter les déplacements et les repas.
Monsieur le Président, je suis surpris de vos propos. Pour qui ont fait les palaces? Est-ce que les palaces, c'est fait pour quelqu'un qui est le maire
la défense.
De la France? Ou est-ce que c'est fait pour les chirurgiens-dentistes qui ont réussi? Pour qui sont faits les palaces? Si ce n'est pour les gens comme Monsieur Chirac.
Est-ce que les dentistes payent en liquide?
Monsieur le Président.
Parfois.
Une partie de votre réponse qui est valable.
Merci, Monsieur le Président.
Merci beaucoup. Merci beaucoup aux témoins. C'est Smaïl Nadir. Sixième affaire, donc la terrasse du fort de Brégançon. Le témoin est Madame Kadi Anne. Si elle veut bien venir jusqu'à la barre, Madame Kadi Anne. Vous allez jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Vous êtes divorcé sans profession.
Oui.
Vous demeurez à Bormes-les-Mimosas.
Oui.
Selon le rapport, vous souffrez de légers troubles de comportement.
Oui.
Alors, Madame Kadian, s'agit-il de troubles liés à la scène dont vous avez été témoin?
Oui, Monsieur le Président. Voilà, j'ai vu le Président Jacques Chirac, tout nu comme un ver. Juste avec autour du cou des jumelles. Alors pour un président de la République, je trouve que c'est absolument horrible. Quand on est père, grand-père, comment un homme de cet acabit peut-il se mettre tout nu?
Ça s'est passé quand?
Ça s'est passé en été. Je me souviens plus de la date exacte, je m'excuse, hein. Alors, vous savez, j'étais très, très, très troublée. Je le regardais comme ça, je me disais, comment moi, petite fille de résistant, mon père, il a été décoré par le général de Gaulle. Ah, ça, c'était un président de la République. On l'aurait jamais vu tout nu. Ah, non, alors. Oui.
Vous étiez où exactement, madame Cady?
Sur un pédalo. Faut que je vous explique. J'ai un ami qui est journaliste, photographe, reporter, et qui me dit, j'aurais bien passé quelques jours chez toi. Est-ce que t'as toujours ton pédalo? J'ai dit oui, j'ai toujours mon pédalo, parce que, voilà, le médecin, il m'a recommandé de faire de l'exercice pour les jambes. Alors, plutôt qu'un vélo d'appartement, j'ai acheté un pédalo. Et tous les jours, quand il fait beau, je fais une heure ou deux de pédalo. Alors, on est partis tous les deux sur mon pédalo. Et puis, il a fait des photos.
Quel était son objectif?
C'était de faire un scoop. Voilà, enfin, une photo qu'on n'aurait jamais vue. Vous parlez d'une photo quand il me les a montrées, oui. Maintenant, ça, c'est, j'en rêve la nuit. Enfin, dès que je commence à m'endormir, je vois le président de la République tout nu au bout de mon lit.
Un fantasme, madame.
Ah non. C'est pas un fantasme, d'ailleurs, je ne dors plus. Je suis allée voir un thérapeute à cause de ça, parce que après l'avoir vu au bout de mon lit, il a commencé à me poursuivre dans la cuisine. Je le voyais sur ma gazinière. Alors, je suis allée voir un thérapeute, et puis depuis, je suis en thérapie. Ça fait plus d'un an, mais il n'y a pas d'amélioration. Et en plus, j'ai écrit plus de 100 lettres au président Chirac.
Que vous espériez, madame?
J'espérais qu'il allait me répondre.
Qu'il vienne, madame?
Oui. Et puis surtout, dites donc, ça coûte cher un psychiatre, hein. Alors, s'il pouvait me donner un peu de sous, je lui ai demandé 10 000 euros pour me rembourser de mon psychiatre. Mais il m'a pas répondu.
Vous étiez complice avec votre paparazzi?
Non, j'étais pas complice.
Vous avez dealé le pédalo, madame.
Pour 5 000 francs.
Ça rembourse déjà presque le psychiatre.
Oh ben non, parce qu'un psychiatre deux fois par semaine, hein, 500 francs le psychiatre par la séance.
Mais en fait, vous venez nous dire que monsieur le président pratique la glasnost en certains endroits.
Oui.
Mais moi, je peux vous dire, madame, s'il en avait, il serait là ce soir.
Oui.
Alors la défense, voilà qui vous donne la parole.
Oui, madame, on compatit à votre douleur.
Oui.
Il vous dit quoi, le psychiatre?
Il dit que ça va passer, mais ça passe pas, hein. Ah non, alors.
Madame, dites-moi, je crois savoir que dans le cadre de vos premières dépositions,
oui,
vous aviez parlé de jumelles.
Oui.
Est-ce qu'on loue les pédalos avec des jumelles au fort de Brégançon?
Non.
Non?
Non.
Et les jumelles, c'était pour quoi?
C'était pour voir si on l'apercevait.
Qui?
Le président Chirac.
Et quoi?
Je pensais pas le voir tout nu, hein.
Ah ouais?
Vraiment. Mmh. Non.
En tout cas, on compatit à votre douleur.
Oui.
On est sincèrement désolés pour vous.
Oui. Et moi alors?
En même temps, madame, il faut que vous sachiez que vous avez commis un délit de violation de domicile.
Pourquoi?
Oh, parce que aller regarder les couilles de son voisin, ça se fait pas. Avec des jumelles.
Oui. Je recommencerai plus.
Très bien. Ah, voilà une bonne phrase. Madame Cady, Anne, nous vous remercions. Vous avez gagné la salle. Neuvième affaire. Il n'y en a plus que 24. Les HLM et le domaine privé de la ville de Paris. Nous allons demander au témoin, mademoiselle Bouvier-Lacour, de bien vouloir s'avancer jusqu'à la barre, de prêter serment, jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, lever la main droite et dire je le jure.
Pas de problème.
Très bien, vous êtes célibataire?
Oui, toujours.
Sans profession? Et sans domicile fixe?
Sans domicile fixe, oui monsieur.
Vous n'avez pas l'air d'une SDF?
Ah, j'ai pas dit que j'étais clocharde, hein. Disons que j'ai pas de domicile fixe, je suis obligée d'avoir divers amis pour me loger parce que j'ai été dans une situation très très difficile, monsieur.
Alors, vous allez nous expliquer quelle a été cette situation difficile. Vous avez déclaré avoir vécu des concubinages, un certain nombre de concubinages, avec entre autres un certain Dominique T et un certain Laurent J. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces deux personnes, monsieur Dominique T, T comme...
Il s'agit de monsieur Dominique Tibéri.
Tibéri, c'est connu ça, c'est un nom connu.
Oui, enfin oui, je suppose que tout le monde connaît, effectivement.
Très bien. Dans quelles conditions vous l'avez connu, vous avez partagé son existence?
Je suis obligée de vous raconter comment je l'ai connu.
S'il vous plaît, pour éclairer la cour.
J'ai connu Dominique à une soirée mondaine. Voilà, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser là-dedans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous nous sommes très vite aimés et que j'ai habité donc l'appartement de Dominique.
C'était le deuxième de la liste, n'est-ce pas, mademoiselle?
Enfin, de la liste, je vous en prie, passons de parler.
Cette manie de mettre des initiales. Notez, on a bien remarqué tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'artistes, puisque les artistes mettent l'initiale devant. Comme B2000 ou C Jérôme. Donc, si vous mettez Dominique T et Laurent J, on sait qu'on est dans un autre domaine. Donc, le premier, c'était Laurent J.
Alors, Laurent J comme qui? J comme?
Comme, je ne sais pas, il s'appelait Laurent Juppé.
Y a-t-il un lien de parenté avec le maire de Bordeaux?
Oui.
Lequel?
Oui. C'est son fils, c'est le fils.
Ah, très bien. Donc, vous avez habité avec monsieur Laurent Juppé. À quel moment, à quel endroit?
Alors, j'ai connu Laurent en avril 95. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes tout de suite aimés, sauf que je vous parlais pas de lui, mais en fait, c'est pareil. Et j'ai emménagé dans son appartement, rue Jacob. Voilà. Et alors, malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps, parce que dès le mois de septembre, figurez-vous, monsieur, ça c'est vraiment pas drôle, nous avons déménagé précipitamment, suite à une odieuse campagne de presse. Heureusement, j'ai rencontré Dominique tout de suite après. Et alors là, vraiment, on a eu beaucoup de chance, parce que ça a été le coup de foudre tout de suite, je peux vous dire.
Et alors, quelle taille était l'appartement?
Vous me parlez de l'appartement de Laurent ou de Dominique?
Non, de Dominique.
Alors, l'appartement de Dominique, c'était pas mal non plus. C'était rue Sans... Parce que je vous ai pas dit, mais l'appartement de Laurent, c'était quand même, c'était vraiment un petit bijou. C'était rue Jacob. Voilà. Et alors, chez Dominique, c'était pas mal non plus. Hein, rassurez-vous, il y avait un 88 mètres carrés avec une terrasse, alors, avec une vue magnifique sur tout Paris. Ça, c'était, mais alors, là, vraiment, j'ai pas eu de chance. Ça a duré un mois, parce que dès le mois d'octobre, eh bien, nous avons également déménagé précipitamment suite à une odieuse campagne de presse. Et je trouve ça inadmissible, monsieur, parce que franchement, Dominique paye son loyer comme tout le monde et je vois pas pourquoi on a fait tout ce pataquès parce que bon, alors je sais pas.
Madame, quelques précisions. Oh, ces appartements, l'un occupé par Laurent J, se trouve quand même être un appartement du domaine privé de la ville de Paris. Bien sûr, vous ne vous souciez pas de ces détails-là. Pourvu que vous ayez un toit sur la tête.
Ah, tout ce que je sais, c'est que cet appartement était libre, que nous n'avons mis personne à la porte. Je vois pas, vraiment pas où est le mal.
Et vous ne vous êtes pas posé la question de l'attribution et comment se faisait-il que Laurent J soit dans cet appartement qui, en plus, a vu son loyer baisser, certainement indexé sur l'inflation de Venezuela, par exemple.
Mademoiselle Bouvier-Lacour, il y a 80 000 demandes de logement pour la ville de Paris.
Dans qui ça sont,
qui sont en souffrance. Et donc, il y a un certain nombre de ces appartements qui ont... pour la période de référence, ont été attribués arbitrairement par le maire de Paris et par son équipe. Avez-vous eu l'occasion de croiser certains de ses bénéficiaires? Je vais vous donner des noms. Par exemple, monsieur Denis Tillinac.
Je ne connais pas.
Monsieur Alain Juppé.
Je connais, mais je...
Monsieur Christian Blanc, l'ancien PDG d'Air France, aujourd'hui député UDF
Christian
des
Yvelines. Christian Blanc, Christian... Non, ça ne me dit
non.
rien.
Un certain Michel Roussin.
Michel Roussin, attendez, Michel Roussin.
Ministre de la coopération, il était à l'époque.
Madame va nous faire le coup de celle qui faisait le ménage et qui ne regardait pas sur le panier.
Mais écoutez, moi je ne demande pas le nom de toutes les personnes qui rentrent à la maison.
Madame, si vous êtes logée par les HLM de Paris, vous savez qu'il y a 80 000 personnes qui font la queue. Vous aussi peut-être.
Mais monsieur ne me parle pas des 80 000 personnes qui font la queue.
Toujours parmi les personnes, mademoiselle, qui ont bénéficié de ces attributions, est-ce que vous avez croisé Jérôme Chaudron de Courcelles, qui est le frère de Bernadette Chaudron de Courcelles et épouse Chirac?
Jérôme?
Oui, Jérôme. Pas Jérôme Balladur, lui aussi, mais c'est un autre Jérôme. Monsieur Jean-Pierre Chevènement, non?
Ah non, non, pas du tout.
Jean-François Kahn?
Je connais pas.
Jean-Jacques Ayagon?
Pourquoi pas, vous me demandez ça?
Très bien. La Défense a quelque chose à insinuer?
Monsieur Le Greffier, j'aimerais que vous notiez ce propos intéressant du Président qui nous permettra de nous pourvoir en cassation si la décision nous est défavorable. Merci, Monsieur le Président.
Eh bien, merci. La Cour appréciera.
Excusez-moi, je voudrais en profiter peut-être... je vous rappelle quand même, monsieur, je suis à la rue, c'est-à-dire SDF. Je voulais savoir s'il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui connaîtrait un petit appartement rive gauche. Si vous avez... Enfin, pas trop cher. Vous pouvez demander mes coordonnées. Voilà. Puis
moi, très bien, mademoiselle, on vous remercie. Je vais gagner la salle. Alors... Pour ne pas prolonger inutilement cette séance, nous allons nous limiter à 10 affaires, il y en a beaucoup d'autres, et nous allons aborder le 10e dossier, la 10e affaire, celle de l'affaire des faux électeurs. Et nous allons demander aux témoins de bien vouloir venir jusqu'à la barre, monsieur Henri Cueco. Monsieur Henri Cueco.
Monsieur le Président.
Vous allez prêter serment, jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, lever la main droite et dire je le jure.
C'est fait.
Je le jure.
C'est fait.
Monsieur Henri Cueco, vous êtes veuf.
Depuis quand? Ça alors, quelle nouvelle! Bon. Vous voulez me déstabiliser, monsieur le Président.
Vous êtes agriculteur.
Enfin, je l'ai été, oui. Plus précisément, je ne suis pas non-agriculteur. Pas tout à fait la même chose.
Bien, vous demeurez à Meymac?
En principe, oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire Meymac?
C'est une petite ville avec un clocher. Des rues qui montent et les mêmes rues qui descendent quand on les prend dans l'autre sens. C'est très bien.
Est-ce que vous diriez que c'est un village caractéristique de la Corrèze?
Ah, absolument.
Monsieur Henri Cueco, voici les faits. Une plainte a été déposée pour fraude électorale contre Jacques Chirac concernant les élections municipales de Paris en 1989.
Et alors? Je ne suis pas au courant, mais rien de tout ça ne me choque. Des vrais électeurs, c'est des électeurs qui vous sont favorables. Des faux électeurs, à plus forte raison, alors je vois pas ce que ça change. En tout cas, moi je ne suis pas un faux électeur. Vous me voyez, je suis en vrai. Eh bien, quand je vote, où que ce soit que je vote, c'est en vrai. Je ne me vois pas en faux. Non, vraiment.
Monsieur Cueco, vous nous avez dit habiter à Meymac en Corrèze et vous avez fait une description très convaincante de cette petite ville. Mais quelle est votre adresse précise?
Ah, eh bien écoutez, en ce moment mon adresse n'est pas très précise. J'ai tendance à circuler, c'est selon mes emplois, qui ne sont pas fictifs. D'ailleurs, on m'avait écrit... sur un papier, ce que je devais répondre, il y a écrit « emploi fictif ». Non.
Est-ce que vous n'avez pas exercé la profession d'électeur professionnel, monsieur Cueco?
Ah, attendez. Non.
Pourtant, on vous connaît plusieurs adresses, monsieur Cueco.
Ben, ce sont des adresses de proximité. Lorsque je dois voter dans le troisième... Autant avoir un logement dans le troisième.
C'est très juste, monsieur Cueco. Êtes-vous électeur en Corrèze aussi?
Pas en ce moment.
Mais votre femme, oui.
Comment ma femme? Elle va mieux alors.
Pour toutes les élections, oui. Elle subit le phénomène chevènement.
C'est quoi, madame ?
La résurrection, monsieur. La résurrection.
Merci pour lui.
Êtes-vous, oui ou non, un faux électeur ?
Ah non, un vrai. Où que je passe, je vote vraiment. Dites-moi ce que ça pourrait être un faux électeur. Non, je ne comprends pas la question.
Bien, alors y a-t-il des observations, madame le procureur, des questions ?
Oui, monsieur Cuéco, vous voulez dire que vous avez participé à un genre de république bananière du fin fond de votre Corrèze ?
Oh, je ne dirais pas ça. Je dirais que, dans l'ensemble, c'est pas vraiment une dictature, sinon une dictature améliorée par la corruption.
La défense ?
Oui, monsieur Cuéco, vous nous avez indiqué que vous ne pouviez pas être un faux électeur. Et je crois que vous avez sollicité de la Cour qu'on vous explique ce qu'était un faux électeur. Monsieur le Président, vous a-t-il donné une réponse ou madame le procureur vous a-t-elle donné une réponse ?
Non.
On peut donc en conclure que le concept de faux électeur n'existe pas.
Le concept, non.
Bien. Donc...
Très bien.
Et voilà, ça continue comme ça, le PDJC, le procès de Jacques Chirac. Vous avez reconnu Henri Cuéco, que vous trouvez dans l'excellente émission de France Culture, Les Papous dans la tête, mais qui est aussi un peintre et un artiste fabuleux. Et puis d'autres que vous connaissez moins bien, sont célèbres ou pas, peu importe, une bande de jeunes qui s'étaient réunis sous la devise AFV, l'anti-France vaincra pour ce procès. En hommage évidemment à notre grand Claude Villers, le tribunal des flagrants délires, le procès de Jacques Chirac.
Pour le réquisitoire, la parole est à madame le procureur.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, nous avons à juger aujourd'hui un homme par contumace. Un homme chargé des plus hautes responsabilités de l'État et qui ne prend pas les siennes en étant présent ici et maintenant, nunc et hodie. Mesdames et messieurs, c'est pas de la délinquance, c'est du Zola pour fête patronale. Je vous demande, monsieur le président, mesdames et messieurs du jury, si là, on ne tombe pas un peu dans le côté rapia d'un couple décrit dans les romans du 19e siècle. Et je te gratouille un sou par-ci, et je te gratouille un sou par-là. Là où je peux avoir à l'œil, je vais à l'œil. Là où je peux prendre un stick ou un canapé, je le prends. Et c'est une grande histoire de cassette, avec Madame Cassette et la cassette de Monsieur Méry. Et rien ne se perd, rien ne se perd dans la boîte aux biscuits, puisque Madame ramasse même les pièces jaunes. Mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président, chez les Chirac, on ne va pas à la banque pour retirer de l'argent, ni au distributeur. Le chauffeur Jean-Claude ne l'a jamais vu retirer d'argent en 25 ans. Quel heureux homme. Alors, je vous demande, messieurs et mesdames les jurés, monsieur le président, d'infliger une peine lourde à cet homme. Au sortir de son mandat, peut-être encore un, condamnons-le à 115 ans de réclusion criminelle pour avoir le temps de méditer sur cette affaire, de compter euro après euro, centime d'euro après euro, tous les sous qui lui sont passés par la main. Et demandons au bon docteur Grubler, qui sait si faire de grands miracles en matière de santé, de le préserver encore 115 ans au début de son incarcération, afin qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa peine.
Merci. Alors, la défense a la parole. Maître Moineau.
Merci, monsieur le président. Monsieur le président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs des renseignements généraux, jusqu'à présent très discrets,
mais qui ont pris des notes très précises qui serviront à nous distraire quand nous nous retrouverons à Fleury-Mérogis. Aujourd'hui, vous avez assisté à un procès, mais c'est un procès en réalité médiatique, car vous l'avez bien vu, dès que l'on va dans les détails, eh bien la réalité judiciaire, vous en avez eu un aperçu, rien ne transparaît, et bien sûr rien ne transparaît, parce que il n'y a rien au dossier, c'est la phrase consacrée, je la prononce ce soir. Qu'est-ce qu'un procès médiatique? Eh bien un procès médiatique, c'est celui de la rumeur. Ce soir, nous avons considéré que Chirac était super voleur. Il y a 20 ans, on aurait jugé ici, dans les mêmes circonstances, facho Chirac. Il y a 10 ans, on aurait jugé crétin Chirac. Et il y a 3 ans, on aurait jugé super menteur. Alors, revenons un petit peu en arrière pour voir quelle est la valeur de ces jugements. En 1974, je me souviens, ma mère me disait, j'étais pas grand à l'époque, Chirac n'est pas nazi, mais il est quand même plutôt de ce côté-là. Ça a été mon éducation politique, elle était mitterrandienne, elle l'est toujours d'ailleurs. Elle ne se remet pas de sa mort. C'est dire que j'ai un passif lourd pour défendre Chirac ce soir. Alors, Chirac et l'argent, dans ce procès médiatique, on a vu les médias se trompent régulièrement, se sont toujours trompés, mais il faut quand même répondre. Alors voilà, super voleur, le gentleman carambouilleur, eh bien il a volé la vedette à facho Chirac, à crétin Chirac, à super menteur. Demain, on jugera sans doute macho Chirac, mégalo chichi, super saligo, peut-être mieux super salopio, parce que ça fera une double allitération en S et en P. Et me voilà sur l'argent, l'argent qui rend fou, disait Mitterrand, sans doute en pensant à son ami Roger Patrice Pelat ou au nouvel appartement de Jack Lang, place des Vosges. Cet argent qui, avec Christian de la Malène, circulait à Paris avant Jacques Chirac, qui, avec Gaston Defer, naviguait à Marseille, qui, avec Pierre Mauroy, fleurissait à Lille, et que l'on trouve dans toutes les grandes villes, les villes moyennes et les petites villes de France, et dans les communautés urbaines, les départements et les régions. Donc, sur le sujet l'argent et la politique en France, nous procéderons à l'étude d'un cas particulier, Chirac-Jacques, qui nous intéresse d'autant plus ce soir que nous sommes 80% quand même à l'avoir élu président. Alors, ces problèmes, à titre personnel, Chirac les a réglés une fois pour toutes, en épousant Bernadette Chaudron de Courcelles, richement dotée, plutôt qu'une quelconque Guylaine Écuelle des Batignolles. Pour Chirac, l'argent, c'est pour la politique. Mais c'est vrai que pour lui, la politique, c'est toute sa vie. Alors, examinez sa vie, et regardez la vôtre, et demandez-vous si ces tribunaux ne sont pas des tribunaux de la morale. Parce que il est un petit peu énervant, ce Jacques Chirac, quand même. Secrétaire d'État à 30 ans, qu'est-ce que vous faisiez à 30 ans? Député, puis 3 fois ministre, Premier ministre à 42 ans, monsieur l'assesseur, maire de Paris à 45 ans, madame le procureur, président de la République à 62 ans et à 69 ans, monsieur le président. Lui a bénéficié d'un appartement de 1000 mètres carrés au cœur de Paris. Sans se fader les agents immobiliers, ni la lecture de Paris Boum Boum, Dieu sait que c'est pénible, ou du particulier à particulier, c'est encore pire. Il a joui, messieurs les membres du jury, des charmes de 207 femmes, pour un fabuleux plaisir de 621 minutes. Il a voyagé 261 fois à l'étranger, sans jamais avoir été victime du surbooking, ce qui lui donne suffisamment de miles pour faire 39 fois le tour de la Terre. Il a des photos souvenirs avec George Bush, comme vous, c'est vrai, comme vous. Mais ces photos à lui ne viennent pas du magic Photoshop de l'aéroport. Et aujourd'hui, plus énervant encore, il vit dans un hôtel particulier du 8e arrondissement avec jardin domestique et surtout, possibilité de garer la voiture dans la cour. C'est agaçant, je le reconnais. Heureusement, ce n'est pas un de vos proches, parce que le succès de ses amis est bien plus pénible que celui de ses ennemis. Mais attention, Jacques Chirac n'est pas arrivé là par miracle. Il a serré dans sa vie 280 337 mains, dont 83% étaient moites. Il a embrassé 23 345 retraités, dont 21 250 venaient de manger leur chocolat de Noël. Il a aussi embrassé le culte de sa femme, et caressé le cul de plusieurs milliers de vaches en les appelant par leur prénom, et sa femme aussi. Alors, les hommes politiques travaillent. Ils commencent tôt le matin, ils finissent tard le soir. Ils travaillent pendant les week-ends et les vacances. Ils l'ont choisi, ils l'assument. Mais cette activité, il lui faut de l'argent. Il lui faut beaucoup d'argent. L'argent pour la politique, il en faut. Il y a les cars, les militants, les tracts, les brochures. À l'occasion des fêtes de Noël, quant au champ, inonde vos boîtes aux lettres de promotion sur le foie gras de Hongrie. Ça lui coûte en frais d'appréciation et de distribution à Auchan environ 1 euro par prospect. Eh bien, les prospects de la démocratie, les électeurs, bénéficient d'un budget alloué aux partis politiques qui n'est pas supérieur et qui est aussi d'un euro par prospect démocratique. Les Français ne veulent pas payer le prix de la démocratie. Ils préfèrent plus de tarama sur leur canapé de Noël et moins de débats républicains. Et ce sont ces Thénardier franchouillards qui prétendent reprocher aux causettes de la politique la collecte des moyens nécessaires au fonctionnement régulier de la démocratie et des institutions. Jacques Chirac donne de grandes réceptions, justifiées par ses hautes fonctions. Et eux, les Thénardier, ils comptent les petits fours et les papiers des petits fours. Et ils comparent le nombre d'olives livrées le matin avec le nombre de noyaux recrachés le soir. Jacques Chirac, oui, c'est vrai, il mange énormément, peut-être pas 4000 francs, mais il mange, oui, il mange, il invite. Et tous, ils mangent ensemble, avec chaleur et générosité. Et eux, les Thénardier, tapis dans les cabinets, demandent à la justice de peser ses excréments. Eh bien, si c'est là leur plaisir, il y a pour eux à la sortie un seau, des gants et un pèse-caca. Un terraillon, pour qui ? Pour tout ce qui sort du fion. Quant à nous, nous autres, regardons la réalité en face. Oui, oui, Jacques Chirac est coupable. Coupable d'être un homme politique et non un froid technicien incapable de gagner les élections. Ce n'est pas Barre, ni Balladur, ni Delors, ni Aubry. Oui, Jacques Chirac a fait sienne la maxime de Jean-Baptiste Botulle, le grand Jean-Baptiste Botulle, qui disait que la transparence est à la démocratie ce que la pornographie est au sentiment. Oui, Jacques Chirac incarne l'énergie de la volonté. Il peut dire tout et son contraire, cacher l'essentiel et montrer ses couilles aux journalistes pour leur montrer qu'il n'y a pas toujours loin du mythe des couilles à la réalité des testicules. Ça ne veut rien dire, mais je l'ai dit quand même. Oui, Jacques Chirac règne, doyen des chefs d'État et du gouvernement, en Europe et en France, maître du jeu politique depuis que Jospin a été renvoyé au vestiaire et qu'il a décidé de s'y enfermer. Pour y faire quoi ? Personne ne sait. Pendant que Jospin, qui avait donné aux Français les 35 heures à la couverture médicale universelle, commence enfin à comprendre que la solidarité, c'est la charité sans les remerciements, Chirac fait croire aux Français qu'ils ne débandent jamais. Oui, Chirac sait que la politique est l'art d'obtenir l'argent des riches et les suffrages des pauvres sous prétexte de les protéger les uns des autres. Cet homme politique est sans équivalent. Il y aura dans la Ve République deux périodes, avant JC et après JC. Devant le mystère qu'il incarne, nous devons en appeler à la dernière forme de sacré qui reste dans notre société, l'onction du suffrage universel. Vous pouvez le juger, vous devez le juger, mais je demande alors que tous les Français de plus de 18 ans soient convoqués comme jurés pour rendre au mois de mai 2007 une décision juridiquement et politiquement incontestable. Vive la République, vive la France !
Alors, il faut être malin là-dedans pour connaître les vrais avocats des faux, les vrais comédiens des faux comédiens. Voilà, c'est l'anti-France vaincra, une bande de joyeux lurons et luronnes qui s'étaient réunis ce jour-là à Paris, au divan du monde, et oui, en public, pour ce procès de Jacques Chirac, dont vous attendez évidemment, je m'en doute bien, l'épilogue.
Alors nous n'allons pas attendre 2007 pour prendre notre décision. Aucune démagogie ne nous arrête ce soir. Et vous allez pouvoir juger. Vous allez pouvoir juger immédiatement l'accusé. Nous avons disposé dans la cabine qui est derrière vous un applaudimètre. C'est un appareil qui, comme vous l'avez déjà compris peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, permet de mesurer l'intensité des applaudissements. Et nous avons une équipe de techniciens
en présence d'un huissier qui sont dans cette cabine obscure que vous ne voyez pas et qui sont donc prêts à opérer en écoutant vos applaudissements ou vos sifflets à la question suivante. Vous applaudissez immédiatement après que j'ai énoncé la question. Attention. La question est la suivante. L'accusé est-il sincère? Deuxième question. L'accusé se fout-il de nous?
Voilà, ça s'appelle un verdict populaire. Pour ceux qui entendent toujours les casseroles, qui ont l'oreille affûtée, vous avez vu passer dans ce tribunal et dans votre transistor Hervé Le Tellier, l'expert psychiatre qui est journaliste et écrivain, Michel Udiani, le puériculteur qui est un comédien, Gérard Mordilla, le cinéaste, Catherine Bouvier, la cour, la SDF, Bertrand Roté, cuisinier à l'hôtel de ville, qui est un cadre supérieur, mais ça il faut surtout pas le dire, Marie Borowski, la comédienne du fort de Brigançon, Lim, le comédien, le château de Bitti, Jean-Bernard Pouy, qui est écrivain, Huguette Drécos, qui était madame le procureur, Smaïl Nadir, l'homme du fitness, un comédien, Frédéric Pagès et Hervé Liffrand, les assesseurs, journalistes au Canard enchaîné, Claire Dublier et Christophe Claire, dont vous avez entendu la plaidoirie, qui sont de véritables avocats, voilà, ils sont cafetés. Il y avait également Henri Cueco, qui est un peintre connu et que nous aimons beaucoup. Et puis il y avait les dessinateurs, ça vous les avez un petit peu moins vus dans votre poste, mais c'était quand même Jules, Luz, Charb, Cabu, Pierre Leroux, Cardon et Postniak.
Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous manque,
regardez son nez s'allonge, il nous manque effrontément.
Il nous manque,
s'il a l'air aussi sincère, c'est parce qu'il ment franchement.
Il nous manque,
c'est rien que du blablabla, il a pas un seul argument.
Il nous manque,
c'est à des fins bien précises qu'il nous parle vaguement.
Il nous manque,
on fera pas de concessions, y aura pas d'arrangement.
Il nous manque,
il nous promet des embauches, il y aura des licenciements.
Il nous manque.
Pas question qu'on lui laisse faire ça impunément.
Il nous manque.
Et méfions-nous des reculades quand il parle avancement.
Il nous manque.
Ce qu'il veut c'est nous casser purement et simplement.
Il nous manque.
On va lui répondre merde poliment mais fermement.
Il nous manque.
Il y a trop des belles paroles, on veut de vrais changements.
Il nous manque.
Pas de plan sur la comète, un plan de recrutement.
Il nous manque.
Ce qu'on veut, ce qu'on exige, c'est de vrais engagements.
Il nous manque.
Il nous parle d'arbitrage mais vous avez vu comment.
Il nous manque.
Qui c'est qui choisit l'arbitre? C'est lui arbitrairement.
Il nous manque.
Plus il parle, plus il ment. Il se croit au Parlement.
Il nous manque.
Écoutez ces jérémiades, il en fait tout un roman.
Il nous manque.
Mon corps se sert à ses serments et à tous ses serments.
Il nous manque.
Il nous raconte sa vie, il veut nous prendre aux sentiments.
Il nous manque.
On s'en fout de son histoire qu'il la raconte à sa maman.
Il nous manque.
S'il croit qu'on va le croire et gober ça aveuglément.
Il nous manque.
Il se met le doigt dans l'œil qui se le met au fondement.
Il nous manque.
En un an, on gagne moins que ses frais de déplacement.
Il nous manque.
S'il me donne son salaire, je veux bien ses embêtements.
Il nous manque.
Qu'il ajoute son capital et je prends tous ses tourments.
Il nous manque.
On les connaît, ses excuses et tous ses empêchements.
Il nous manque.
Avec son flot de promesses, il saoulerait un régiment.
Il nous manque.
Ça fait des mois qu'on réclame et il fait l'étonnement.
Il nous manque.
Il nous paye une misère et il veut des remerciements.
Il
Ce qu'il voudrait peut-être, c'est qu'on bosse bénévolement.
Il nous ment.
Les heures supplémentaires, ça se paye en supplément.
Il nous ment.
Qu'il nous parle un peu de pèse, on verra pour l'apaisement.
Il nous ment.
C'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous ment. C'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous ment.
Oh vraiment, il est gonflé par les épanouissements.
Il nous ment.
Dévouement à l'entreprise, oui, mais pas n'importe comment.
Il nous ment.
Attachement à la boîte, oui, mais pas à chiennement.
Il nous ment.
On est OK pour le service, pas pour l'asservissement.
Il nous ment.
Nous, on veut bien que ça change, mais c'est quoi ces changements?
Il nous ment.
Pour lui, les améliorations, pour nous, les désagréments.
Il nous ment.
Devinez ce qui se cache sous le mot redéploiement.
Il nous ment.
Devinez ce qui se cache.
Fabulous Troubadour, il nous ment. Merci à tous. À la technique aujourd'hui, c'était Olivier Ruyotor, Stéphane Corridin et Anne Le Guénec. Assistante Joël Levert. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Christophe Imbert qui vous écoute au bout. Choix musicaux, Koy Nguyen. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission et qui l'a montée. Modeste, génial, évidemment.
Et maintenant, l'instant GPL. Aujourd'hui, où trouve-t-on du GPL? Eh bien, partout en France, près de 2000 stations distribuent du GPL. Une raison de plus pour rouler au GPL, le plus propre des carburants disponibles pour notre environnement et pour votre moteur. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs millions de véhicules qui roulent au GPL en Europe. C'est un signe qui ne trompe pas. Le GPL, ce serait trop bête de ne pas en profiter. 0820 206 206 12 centimes la minute.
On se retrouve demain à 17h pour la Bastille, j'y suis. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.